Alors, vous avez deux types de chrétiens. Quand on commence comme ça, en général, c'est jamais vrai. Il n'y a jamais deux types de quoi que ce soit, mais ce n'est pas grave. Parce que du point de vue homilétique, rhétorique, ça démarre bien. Donc, j'y vais quand même comme ça. Vous avez deux types de chrétiens. Celui qui fonce et celui qui attend. Celui qui attend parce qu'il a confiance en Dieu. Il se dit « Dieu agira » et donc il attend que Dieu agisse. Et puis celui qui fonce, il fonce parce qu'il a confiance en Dieu. Dieu agira, alors du coup il fonce parce que Dieu va agir. Celui qui attend, il attend parfois toute sa vie et puis il n'y a rien qui se passe. Et celui qui fonce, parfois, il défonce surtout. Il casse tout sur son passage, porté par cette conviction qu'il a, non pas que les portes vont s'ouvrir, mais qu'elles doivent s'ouvrir. Et beaucoup de croyants vivent des situations relationnelles bloquées, des appels clairs, mais pour lesquels ils n'ont pas le mode d'emploi, des temps où Dieu semble silencieux, mais où, pour qui veut bien les voir, il laisse ses pas dans la neige fraîche de nos vies. C'est pas toujours facile de s'y retrouver. Et Ruth 3, puisqu'on est toujours dans cette série sur Ruth, nous montre un chemin entre cette foi qui attend et cette foi qui agit. Il nous montre, je crois, le chemin de l'audace confiante. C'est comme ça que je l'ai appelé, le chemin de l'audace confiante. On va aller lire ce texte en Ruth 3, je vais prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. À nouveau, Seigneur, nous sommes reconnaissants d'y avoir accès, de pouvoir la lire, reconnaissants de ce qu'elle produit en nous, aussi, en tout cas à chaque fois que nous laissons ton Esprit Saint nous illuminer cette lecture, cette compréhension de ta parole. Alors c'est ce que nous te demandons pour nous-mêmes maintenant, que ton Esprit Saint nous aide à la comprendre. Amen. Donc on va aller lire Ruth 3, mais avant de lire ce texte, je vais rappeler quelques éléments. La dernière fois, on s'est quitté sur ces questions. Est-ce que Boaz va enfin inviter Ruth au resto? Vous vous rappelez? Est-ce qu'on va enfin assister au début de romance qu'on a vu se dessiner dans les deux premiers chapitres? Eh bien, nous y voilà. C'est ça, Ruth 3, c'est ce qu'on va voir ici. Le texte qu'on va lire nous amène au moment du vannage de l'orge. Vous vous rappelez, on est au temps des moissons, etc. Ruth, elle travaille dans les champs. Et là, on est au moment du vannage, c'est ce qu'on va lire dans le texte. Le vannage, il arrive après le battage, tout ça c'est un peu technique. Le battage, c'est le processus qui consiste à séparer les grains du reste de la plante. Ça, c'est quelque chose qui se fait immédiatement après la récolte. Mais le vannage peut se faire plus tard. En fait, il consiste à enlever le reste de la balle et les parasites qui pourraient être encore présents dans les grains avant de les stocker. Et donc, comme les moissons de l'orge et du blé se suivent, on peut imaginer, sans que ce soit complètement certain, mais on peut imaginer que le vannage de l'orge aura attendu la fin de la moisson des blés, parce que la moisson des blés, bah, ça urge un peu plus que le vannage qui, lui, peut attendre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça permet simplement de relever que probablement plusieurs semaines se sont écoulées depuis la première rencontre entre Boaz et Ruth. Ils ont donc eu le temps de se fréquenter pas mal, de se rencontrer, de travailler ensemble, de manger ensemble, comme on l'a vu. Bref, de développer effectivement un début de relation. Et ça a laissé le temps aussi à Noémie, visiblement, de sortir de sa déprime. Elle va mieux. Mais après l'enthousiasme initial de découvrir en Boaz un rédempteur pour la famille, quelqu'un qui va pouvoir les tirer d'affaires, elle commence à trouver le temps long. Et c'est là qu'on arrive en Ruth 3, que nous allons lire maintenant. Ruth 3. Noémie, la belle-mère de Ruth, dit à Ruth « Ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse? En fait, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner ce soir les orges qui sont sur l'air. Lave-toi, parfume-toi, puis mets ton manteau et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître de lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu sauras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu devras faire. » Elle lui répondit, « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai. » Elle descendit jusqu'à l'air et fit exactement ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Boaz mangea et but, son cœur était content. Il alla se coucher à l'extrémité du tas de gerbes. Ruth vint furtivement découvrir ses pieds et se coucher. En pleine nuit, l'homme frissonna et se retourna. Une femme était couchée à ses pieds. Il dit « Qui es-tu ? » Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton vêtement sur moi, puisque tu es rédempteur. » Il s'exclama « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Cette dernière marque de fidélité vaut encore mieux que la première, car tu n'as pas couru après les jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, s'il est vrai que je suis rédempteur, il y a un autre rédempteur qui est un parent plus proche que moi. Passe la nuit ici. Si ce matin il assure ta rédemption, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne désire pas assurer ta rédemption, c'est moi qui le ferai, par la vie du Seigneur. Reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un l'autre. Boaz se disait « Qu'on ne sache pas que cette femme est entrée sur l'air. » Il dit alors « Tends vers moi le bord de ton manteau et tends-le bien. » Tandis qu'elle le tenait, il mesura 6 mesures d'orge et l'en chargea. Puis il rentra dans la ville. Elle revint auprès de sa belle-mère. Celle-ci lui demanda « Où en es-tu, ma fille ?» Elle lui raconta alors tout ce que l'homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie dit « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'en ait terminé avec cette affaire aujourd'hui même. » Noémie. Elle perd pas le nord, Noémie. Vous avez là l'histoire classique pour l'époque, en tout cas, d'un mariage arrangé. Alors normalement, ce sont les parents qui arrangent le mariage. Et ici, c'est Noémie qui va assumer ce rôle. Au verset 1, elle dit « ma fille ». Elle décide d'endosser ce rôle de maman pour faire avancer les choses, parce que visiblement, si on attend Boaz, on n'est pas rendu. Et c'est intéressant cette histoire parce qu'elle pose d'emblée la question de ce qu'est une famille. Il y a là une adoption, et pas n'importe laquelle, l'adoption d'une Moabite par une Israélite. Et je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a lu dans le livre du Deutéronome, mais les Moabites ont été maudits par Dieu. Deutéronome 23, versets 4 et 5 disent « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée du Seigneur, même leur 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur. Il en est ainsi pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé contre toi Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour te maudire. » Et ça, c'est donc une ordonnance perpétuelle, c'est pour toujours. Mais le cœur de Ruth a rejoint le Dieu d'Israël. « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu », c'est ce qu'elle a dit à Noémie quand elle l'a suivi jusqu'à Bethléem. Et il est significatif de noter que dans ce chapitre, alors même que nous parlons d'adoption et de mariage, le fait que Ruth est Moabite n'est même pas mentionné. Ce n'est pas un sujet, en tout cas, ce n'est plus un sujet. Dans le sujet, il est ailleurs. Et le sujet, c'est, bon, ils vont conclure, oui ou non ? Boaz, c'est un croyant qui attend. Le gars est un rédempteur, mais il prend 0 initiative, rien du tout. Il est dans la réaction aux événements, et quand il réagit bien, mais, par exemple, il ne s'est pas approché lorsque Naomi, sa proche parente, est revenue de Moab. Il n'est pas venu la voir, il ne leur a pas proposé son aide. Il a fallu aller le chercher jusque dans son champ. Et là, alors que Ruth travaille dans son champ, qu'il a vu en elle une femme chayil, c'est-à-dire une femme vaillante, travailleuse, entreprenante, une femme de valeur, avec qui il prend plaisir à manger, qu'il prend visiblement sous son aile, alors qu'il est l'un des rédempteurs, qu'il le sait, que Naomi le sait, que Ruth le sait, que les serviteurs le savent, et que tout Israël et tout Chambéry maintenant se demandent quand est-ce qu'il va enfin se bouger, eh bien, rien du tout. Les jours passent, les semaines passent, et rien d'autre ne se passe que les jours et les semaines. Mais en face de Boaz, vous avez Naomi. Et Naomi, elle a un peu d'expérience. Elle s'est mariée une fois, elle a marié ses 2 fils, elle commence à savoir comment ça marche. Et Naomi, maintenant qu'elle est sortie de sa léthargie dépressive, c'est une croyance qui fonce et qui défonce s'il le faut. Donc, Ruth, tu te laves, tu t'habilles, tu te parfumes, tu mets ton manteau, tu descends sur l'air, et le Boaz, là, tu vas lui parler franchement maintenant. Alors, à la décharge de ce pauvre Boaz, que je charge un petit peu quand même, là, j'avoue, il faut dire que Ruth était en deuil et que visiblement, ça se voyait. Je le dis parce que ce triptyque de se laver, se parfumer et s'habiller qu'on voit ici, c'est un triptyque qu'on retrouve ailleurs, notamment en 2 Samuel 12-20, qui nous décrit la sortie de deuil du roi David suite à la mort de l'enfant qu'il a eu avec Bethsabée. C'est une sortie de deuil particulière d'ailleurs, puisque David sort du deuil à la mort de son fils, mais enfin c'est une autre histoire. En tout cas, dans ce passage, 2 Samuel 12-20, il nous est dit « David se releva de terre, il se lava, se parfuma et changea de vêtements ». L'invitation que Naomi fait à Ruth, ici, c'est de sortir du deuil. C'est ce qui est une invitation touchante, par ailleurs, je trouve, parce qu'on parle du fils de Naomi, là. C'est du deuil de son propre fils que Naomi invite Ruth à sortir. Je trouve que c'est beau comme geste. C'est une invitation à aller de l'avant, à reprendre le cours de la vie. Et accessoirement, c'est aussi une invitation à envoyer quelques signes clairs à Boaz, parce que là, ça traîne un peu quand même. Alors, la confiance en Dieu, ce n'est pas une confiance passive. Il y a de la place, une place de choix pour l'action, pour l'initiative. Une initiative qui prépare l'avenir sans le forcer. Il ne s'agit pas de défoncer des portes fermées à double tour, mais il s'agit bien quand même de vérifier lesquelles ne seraient pas verrouillées éventuellement. Et c'est là toute la délicatesse à trouver, l'audace qui respecte la vérité. Alors on fait parfois du verset 5 un verset, je dirais, de soumission. Parce que Ruth dit « Tout ce que tu m'as dit, je le ferai ». C'est ce qu'il dit à sa belle-mère. Et donc on dit « Vous voyez, Ruth, c'est une femme de valeur. Regardez comme elle est obéissante. Regardez comme elle est soumise. Voilà ce qu'est une femme de valeur. » Moi, je crois surtout que Ruth est une femme intelligente qui sait que l'expérience de sa belle-mère est précieuse dans ce cas précis parce que Naomi, elle connaît les codes culturels en Israël. Elle sait comment ça se passe, elle sait comment Ruth devrait s'approcher de Boaz et à quel moment. Mais je pense aussi qu'on s'est suffisamment approché du caractère de Ruth pour savoir qu'elle n'a pas franchement besoin de Naomi pour avancer dans la vie, en fait. Elle obéit parce que Naomi est ici pertinente et de bons conseils. Et d'ailleurs, elle n'a pas toujours obéi à Naomi. Quand Naomi lui a dit de retourner en Moab pour s'y trouver un mari, elle a refusé et l'a suivi jusqu'à Bethléem. Donc ce plan qui nous a été décrit, c'est celui de Naomi, mais c'est aussi celui de Ruth. Alors maintenant, l'initiative est quand même risquée, parce que le plan, c'est quand même d'aller se coucher au pied d'un homme, au milieu des champs, en pleine nuit, dans un contexte où il a fallu ordonner donc aux serviteurs de ce même gars de ne pas la toucher, parce que visiblement, ce n'était pas une évidence pour tout le monde. Alors il y en a qui voient dans ce geste une invitation sensuelle de la part de Ruth, voire même sexuelle. Elle s'est apprêtée, elle s'est parfumée, elle rejoint Boaz au milieu de la nuit, au pied de sa couche, après une soirée un peu festive. Il a le cœur content, nous dit le texte. Elle lui découvre les pieds pour qu'il soit réveillé par le froid et qu'il se rende compte de sa présence. Mais qu'est-ce qu'elle cherche, franchement ? Qu'est-ce qu'elle cherche ? Alors je crois qu'avant de se précipiter sur des conclusions hâtives, il faut essayer de tenir tous les éléments en compte. Et c'est certain que ce qu'elle fait n'est pas anodin. C'est certain qu'il y a là une proximité physique qui va au-delà de ce qu'on pourrait comprendre d'une femme qui n'a absolument aucune intention, si ce n'est celle de se trouver un coin pour dormir. Bien sûr qu'il y a une autre intention derrière ce geste. Mais il ne faut pas non plus forcer le trait sur le fait, par exemple, qu'elle se soit apprêtée. On l'a dit, ce fait il nous est donné non pas pour qu'on comprenne qu'elle a sorti son plus beau décolleté, mais pour qu'on comprenne qu'elle est sortie du deuil et donc qu'elle est effectivement à nouveau disponible pour un engagement dans le mariage. D'ailleurs, c'est un petit détail, mais je trouve qu'il est intéressant, l'histoire précise qu'elle a un manteau, et ce manteau, vous avez vu à la fin de l'histoire, va servir au petit matin pour qu'elle ramène chez elle 6 mesures d'orge. Elle va s'en servir de baluchon. 6 mesures d'orge, ça représente, tenez-vous bien, 30 à 40 kilos de grains. Vous imaginez un peu la taille du manteau. Visiblement, on n'est pas sur la petite veste d'été qui vient mettre en valeur une robe moulante, en fait. Alors, Ruth veut un rapprochement avec Boaz, c'est évident, mais elle n'use pas de ses charmes, et c'est évident aussi. Et je trouve que c'est important de le rappeler, parce qu'il me semble que ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'elle ne veut pas tricher. elle ne veut pas séduire Boaz dans le but de lui faire user de son droit de rachat. Et ça aussi, ça se voit, je crois, dans ses demandes. Sa prise de parole, là, au milieu de la nuit, elle est intéressante parce que son but, visiblement, c'est de nommer les choses clairement, c'est de mettre les bons mots sur ses intentions. Déjà, elle se nomme elle-même. « Qui es-tu ? Je suis Ruth. » Bon, jusque-là, on aurait fait pareil, je pense. Ensuite, elle nomme la relation qui la lie à Boaz. « Je suis ta servante, tu es mon rédempteur. » Et enfin, elle met des mots sur sa demande, qui est très claire, « Étends le pan de ton vêtement sur moi. » Alors, pour qu'on se comprenne bien, cette expression, c'est ni plus ni moins une demande en mariage. Ce que Boaz avait souhaité de Dieu, quand il disait à Ruth au chapitre 2, « Que ta récompense soit complète de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu chercher un abri », Ruth demande à Boaz de l'incarner, ce souhait. Elle lui dit en somme, « En fait, c'est toi ici qui représentes les ailes du Dieu d'Israël sous lesquelles je peux trouver un abri. » Alors, il y a à la fois quelque chose de très sensuel dans les actes de Ruth, mais il y a aussi quelque chose de très pragmatique dans ses paroles. Et c'est un mélange que je trouve intéressant, y compris pour nous-mêmes, dans notre manière de construire une relation amoureuse. Il y a une question de sensualité, évidemment, une question de rapprochement, il y a une tension amoureuse, il y a des sentiments qui naissent, mais ça ne suffit pas pour un mariage. Parce qu'un mariage, c'est aussi un contrat, et même pour ce qui nous concerne, plus qu'un contrat, c'est une alliance. Et il faut parler des termes de cette alliance avant de s'engager. « Je suis ta servante, tu es mon rédempteur. Je serai ton aide et ton vis-à-vis, tu seras mon soutien et mon protecteur. » Ça, c'est les termes que Ruth propose à Boaz. Ruth est audacieuse, elle prend des risques, mais la fin ne justifie pas les moyens. Elle parle vrai, elle ne cherche pas à tromper Boaz sur la nature de sa demande, elle ne cherche pas à le piéger par les sentiments. Et ça, évidemment, c'est essentiel pour bâtir une relation fondée sur des valeurs communes et non sur l'élan d'un coup de cœur. L'amour durable n'est ni impulsif, ni purement rationnel. Ruth et Boaz sont tous les deux qualifiés de chayil. Boaz au début du chapitre 2 et Ruth dans notre texte au verset 11. Au chapitre 2, on nous dit que Boaz est riche et ici on nous dit que Ruth est une femme de valeur. Mais je l'ai déjà mentionné, c'est le même mot en hébreu. Ce sont tous les deux des personnes de valeur, solides, fiables, vaillants. Et je crois, moi, c'est ma thèse, vous la partagerez ou non, qu'ils se sont reconnus. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Boaz a reconnu Ruth. Sur la place publique, dit-il, chacun sait que tu es une femme de valeur. Et il en est de même pour lui, et Ruth ne peut pas l'ignorer, ne serait-ce que parce qu'elle l'a vu à l'œuvre. Donc je crois que ces deux-là s'estiment mutuellement sur cette base-là. Et là, on vient d'assister au moment où ils se le disent, en fait. Selon le mot du théologien Daniel Bloch, un spécialiste de l'Ancien Testament, voilà ce qu'il dit, j'aime bien cette expression, il dit « Voici qu'une servante demande à son patron de l'épouser, qu'une Moabite fait sa demande à un Israélite, qu'une femme fait sa demande à un homme, qu'une pauvre fait sa demande à un riche. » Parce qu'effectivement, à l'encontre de tout ce qu'on pourrait imaginer dans cette société-là, c'est Ruth qui prend l'initiative et c'est Boaz qui répond. Et de la même manière qu'elle, elle pose le cadre, eh bien, lui, il répond avec le respect du cadre posé. Il dit « S'il est vrai que je suis rédempteur, il y a un autre rédempteur, qui est un parent plus proche que moi. Passe la nuit ici. Si ce matin il assure ta rédemption, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne désire pas assurer ta rédemption, c'est moi qui le ferai par la vie du Seigneur. » Je trouve ça presque mignon, cette manière de dire les choses. C'est un peu comme s'il y avait un autre prétendant, plus légitime que lui, pour épouser Ruth. Et en gentleman, Boaz ne profite pas de la situation de proximité dans laquelle il se trouve pour lui passer devant, pour lui damer le pion. Imaginez que vous tombiez amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui est déjà engagé dans une relation, quelqu'un avec qui vous développez vous-même une amitié, qui pour vous est devenue un peu plus qu'une amitié, et que vous décidiez pourtant de ne rien entreprendre par respect pour l'autre personne. Je trouve que c'est beau, pas tant parce que c'est noble, mais parce que c'est le signe que Boaz a confiance en Dieu. Il fait confiance à Dieu. Si les choses doivent se faire entre Ruth et lui, elles vont se faire. Alors, il ne force rien, il ne précipite rien. Par contre, faudrait pas que l'autre traîne trop. Hein. Si ce matin, il assure pas ta rédemption, moi, à midi, je m'en charge. Voilà. Voilà. C'est pragmatique, je trouve. Mais il ne se laisse pas emporter par ses sentiments. Il est un homme de valeur et il ne va pas renier ses valeurs pour les élans de son cœur. C'est ce que fait une relation saine. Elle articule affection et sagesse, sentiment et raison. Il va agir, mais il va agir sans conclure l'histoire à la place de Dieu. Et c'est là que c'est un peu tendu. C'est un peu tendu parce que les deux se sont quand même déclarés l'un à l'autre, là. Et il reste un obstacle qui pourrait rendre cette union impossible. Ici, il s'agit d'un autre rédempteur, mais dans toute relation naissante, même dans celle où on s'est mutuellement déclaré notre flamme, il y a toujours des choses qui peuvent rendre l'union impossible. Quand j'ai rencontré Anna, voilà, je vais parler de nous, j'espère que tu n'auras pas honte, on vivait à 650 km l'un de l'autre. J'habitais à Clermont-Ferrand, elle vivait à Barcelone, en Espagne. Je parlais ni espagnol ni catalan. Pour la rejoindre, il fallait que je quitte mon travail en CDI. J'avais pas de droit au chômage puisque je démissionnais. Et tout ça pour faire quoi là-bas? Enfin, en dehors de me marier avec Anna, ce qui est déjà une excellente raison. Mais vous faites quoi comme boulot? Vous faites quoi comme travail quand vous ne parlez pas la langue du pays et que le seul diplôme que vous avez, même en France, personne ne sait ce que c'est? Tiens, on va faire un test. J'ai un brevet de technicien agricole service aux personnes, option service en milieu rural. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? C'est quel niveau? On teste. Bravo. T'as fait le même. Ah voilà. Très bien. Eh ben, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, quand j'ai voulu m'inscrire à la fac, j'ai été obligé de justifier que c'était un niveau bac. Parce qu'il savait pas. Il connaissait pas. Voilà. Donc, effectivement, c'est un diplôme de niveau bac. Bon, voilà. Mais on peut aussi se mettre à la place d'Anna, je pense. Franchement, quelle garantie je lui apportais, quoi. Pour un peu, en 2 mois, je me convertis en parasite qui vit à son crochet sous le soleil de Barcelone. C'est possible. C'est possible. Et puis, je ne vous parle pas de ma belle-mère, qui a fini par beaucoup m'aimer, mais au début, c'est pas très rassurant, tout ça, quoi. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des obstacles dans la construction d'une relation et qu'il y a un moment où... Je veux dire, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, quoi. Et il s'agit de faire confiance à Dieu. Il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains. Et on va voir comment Dieu agit. Alors, il se trouve que là, dans mon histoire avec Anna, évidemment, il y a un happy end. Mais ce n'est pas toujours comme ça, évidemment. Parfois, le Seigneur ferme les portes. Parfois, il laisse entendre clairement que malgré les sentiments qui peuvent être très forts, qui peuvent même être partagés par l'autre, malgré le rapprochement qui s'est peut-être opéré, eh bien, en fait, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Il y a un rédempteur plus proche, et ce n'est pas Boaz. Ou peut-être que si, c'est dans les mains de Dieu. Alors une fois qu'on a eu l'audace de la rencontre, eh bien on se tient dans une attente confiante. Dieu n'est pas étranger à cette affaire-là. Ce qui doit se faire, se fera, et on décide de faire confiance. Dans cette attente, Boaz, lui, il continue de se comporter comme il l'a toujours fait. Il va protéger Ruth, cette fois-ci dans sa réputation. Alors qu'ils se réveillent tous deux avant le lever du jour, ils s'arrangent pour ne pas être vus avec elle, pour que les gens ne se fassent pas des films, tout simplement, sur ce qui a pu se passer durant la nuit, parce qu'il y aurait de quoi s'en faire. Et ils s'engagent vis-à-vis d'elle. Si l'autre rédempteur ne fait pas valoir son droit dans la matinée, lui le fera. Et ils s'engagent non seulement vis-à-vis d'elle, mais ils s'engagent aussi vis-à-vis de Noémie. Les six mesures d'orge, si vous regardez bien le texte, ce n'est pas pour Ruth, c'est un cadeau pour Noémie. Alors voilà, j'aurais tendance à dire que Noémie, c'est une croyante qui fonce un peu trop, et Boaz, peut-être un croyant qui attend un peu trop. Et puis au milieu, il y a Ruth. Ruth qui sait prendre des initiatives quand il faut, y compris quand elles sont complètement à contre-courant des us et coutumes habituels, mais qui sait aussi attendre patiemment de voir comment Dieu va conduire les choses maintenant qu'elle a posé les pierres qu'elle-même avait à poser. Ruth n'est ni une croyante qui fonce, ni une croyante qui attend. Ruth est dans une audace confiante. Et vous? Il y a quelque temps, j'ai fait un test psychologique, un truc sérieux, pas un truc gratuit sur Instagram, là. Un test psychologique qui montrait que l'un de mes points forts, c'est la prudence. Chacun saura si c'est un point fort ou pas. Mais en tout cas, je pèse le pour et le contre, je pèse mes mots, j'évalue les situations, j'observe où je suis avant de commencer à bouger. Je crois que je suis un gars qui aurait prodigieusement agacé Noémie. Mais je me soigne, j'essaye en tout cas, notamment sur les réseaux sociaux par exemple, où j'apprends à oser, j'apprends l'audace, à y aller un peu franchement, à voir, tiens, est-ce que ça passe, tout ça, bon, j'essaye. Il y en a d'autres qui foncent tête baissée, qui agissent d'abord et qui réfléchissent après, une fois qu'ils sont en prison. Alors, voilà le plan. Sur le mois de mars, j'en ai déjà parlé, on va avoir un temps de discernement en Église autour des talents que Dieu nous a donnés. Un discernement pour essayer de voir quelles sont ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique, c'est Éphésiens 2:10 qui nous dit ça. Quels sont ces pousses qui sont déjà en germe parmi nous et qui ne demandent qu'à être arrosées pour grandir et porter du fruit. Et dans ce discernement, on sait déjà qu'il faudra freiner les audacieux et pousser les prudents dans mon genre. Alors, je vous pose la question, comme je me la suis posée à moi-même, quel type de chrétien êtes-vous ? Où est-ce que vous vous situez dans ce schéma un petit peu binaire, évidemment ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à foncer, un peu tête baissée, ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à attendre ? Et quelle que soit votre réponse, est-ce que vous êtes prêt à vous laisser bousculer par Dieu, peut-être pour être plus patient, si vous êtes du genre à mettre des coups de pied dans les fourmilières, ou à être plus audacieux si vous êtes du genre à compter la dépense jusqu'à une maîtrise telle que vous n'avez même plus besoin de compter sur Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une audace confiante. Oser aller là où c'est juste, même si on ne voit pas tout le chemin, et en même temps, ne pas forcer les portes que Dieu voudrait peut-être laisser fermer. Agir quand c'est l'heure, et attendre quand c'est l'heure. L'audace confiante. Alors, il y a une chose que l'on sait, c'est que notre Rédempteur vit. Bien vrai ? Notre Rédempteur, c'est Jésus, c'est lui qui nous a rachetés. Il vit, et en réponse à ce beau texte de Ruth 3, je vais inviter l'équipe de louanges à venir, parce que nous allons chanter ça. Notre Rédempteur vit, nous pouvons lui faire confiance dans notre audace.